Au Brésil, il existe un endroit extraordinaire qu'on appelle Amazonie. C'est une énorme forêt et on y trouve des plantes incroyables. Ceci est l'histoire d'un jeune Indien, un garçon qui s'appelait Mutua.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Primitive, je suis en compagnie de Jean-Baptiste Berger et Tommaso Montagnani, qui sont un duo qui font pas seulement la musique, mais aussi des spectacles. Vous ne faites pas seulement que de la musique, vous faites aussi du théâtre en mélangeant vos deux talents, la composition et la narration. Vous partagez aussi une passion commune, la musique qui vous a poussé à créer le groupe. Vous faites principalement des spectacles pour enfants, comme l'aquaphonie, qui mêle histoire fantastique, parlant d'une rencontre avec une baleine, souhaitant se lier d'amitié avec les humains, sur un fond de synthé et de clarinette, ainsi que la contrebasse de Tommaso. Ce spectacle est plutôt adressé à des enfants, mais l'ambiance musicale en fond est aussi intéressante à découvrir par un public qui n'est pas forcément ciblé.
Bonjour, je m'appelle Luis Rodriguez Collinet et j'avais une question pour vous. D'où est venu le nom de votre association Tacoma?
Alors le nom de l'association Tacoma, il vient de l'histoire d'un pont en fait aux États-Unis. Ce pont s'appelle Tacoma et en fait il s'est mis en vibration avec le vent. Il avait un défaut de conception ce pont et c'est une vidéo assez célèbre où on le voit, je crois que c'est dans les années 20-30, où on voit une voiture dessus et en fait il s'est mis à vibrer à cause du vent et cette vibration s'est auto-alimentée et a littéralement fait céder le pont. Et en fait, voilà, c'était un peu une idée de la mise en vibration et donc ça a un rapport avec le son parce que le son c'est de la vibration. Et ça me plaisait bien d'avoir cette idée un petit peu de vibration qui crée des accidents. Alors bon, ça peut être des accidents graves comme un pont qui cède, mais là c'est en musique en général c'est moins grave.
Bonjour, je m'appelle Maya et je voulais savoir ce qui vous a motivé pour monter le spectacle de Mutua que vous allez présenter à plusieurs reprises cet été dans le cadre de Un été à Reims.
Oui, donc Mutua, il est né de toujours l'envie de faire quelque chose de bien pour la nature, pour l'environnement, de montrer comment certaines populations dans le monde, et c'est le cas des Indiens d'Amazonie, donc le personnage principal est un Indien d'Amazonie, comment certaines populations ont encore un respect profond pour la nature que d'autres populations ont perdu. Et voilà, il y avait une volonté de raconter cette histoire. La nature est un thème qui nous est cher. Moi, Jean-Baptiste, déjà avec Aquaphonique, on a exploré cette thématique. Et voilà, on a continué, on a juste passé de la mer à la forêt cette fois.
Merci. J'avais une seconde question. Je me demandais comment chaque scène est musicalement écrite. L'écriture de l'histoire inspire-t-elle strictement les morceaux musicaux? Peut-être y a-t-il des cas où les compositions musicales inspirent et donnent naissance à des moments de l'intrigue en elle-même, au décor peut-être, ou au cadre de l'histoire par exemple?
En tout cas, c'est une bonne question. Précisément sur Mutua, ou peut-être pas précisément sur Mutua, peut-être en général, que ce soit Aquaphonique, la petite histoire du jazz, ou Mutua, qui sont les trois spectacles en gros jeune public qu'on a créé ces quatre dernières années. Il y a d'abord l'idée d'une thématique qui est souvent initiée par Tommaso, et du coup un récit, et ensuite ce récit se découpe en plusieurs tableaux, que Tommaso dessine plutôt. Et du coup, ces tableaux, on va ensuite chercher à les illustrer de façon sonore. Alors, c'est évidemment avec de la musique, mais des fois, c'est aussi avec des effets en fait qui vont peut-être illustrer le plus concrètement, et puis des fois un peu de façon imaginaire, on va dire. Mais et sinon, sur la partie vraiment composition, il y a quand même parfois la volonté de s'inspirer de ce qui est dit dans le texte, en fait. Donc là, ça va passer par des moments peut-être même d'improvisation. Ça nous est arrivé sur Aquaphonique, on s'était amusé à improviser en pensant à ce qu'on voulait illustrer. Et en improvisant, à un moment donné, émerge une mélodie ou un accompagnement qui va nous servir ensuite de base pour finir de composer le morceau. Moi, peut-être que Tommaso a un point de vue un peu différent, mais moi, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à s'inspirer du récit, qui peut être très bien un personnage, un animal, une plante. À ce moment-là, on va essayer d'illustrer de façon musicale cet élément. Mais peut-être que Tommaso a une autre façon de voir les choses.
Oui, pour moi, personnellement, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, je vais aller chercher des idées musicales qui illustrent les récits qui existaient déjà. Mais aussi, je récupère des idées musicales que j'avais dans la tête depuis bien avant que je commence à écrire les récits et qui prennent tout leur sens une fois que les récits sont nés. Donc, c'est de la musique qui existait déjà avant les récits, mais tout d'un coup, elle prend ce sens-là. Tout d'un coup, je dis, ah, en fait, cette idée-là, elle était parfaite pour cette partie de l'histoire, et alors je l'intègre dans le processus des compositions.
Ça fait partie du processus de création d'expérimenter des choses, de récupérer des choses, effectivement, et puis de se rendre compte qu'il y a... Il y a des choses qui vont coller, oui, et puis il y a des choses qui vont devoir être complètement créées, en fait. Ouais.
Alors, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les sujets abordés, comme les relations entre les différentes espèces, peuvent être bien comprises par des enfants ?
C'est une question difficile, parce qu'on peut pas être à leur place, on n'est plus à leur place. On n'a plus l'âge d'être des enfants. Moi, je crois qu'évidemment que oui, parce que je pense que les enfants comprennent énormément de choses. J'élargirais même ta question sur la musique, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'interdisent absolument pas d'écouter des choses. En tout cas, il faut pas s'interdire de leur faire écouter des choses qui, finalement, quand on grandit, nous paraissent soit désuètes, soit inaccessibles, soit complexes. Et en réalité, ils n'ont pas ce filtre-là. Ils prennent et ça leur crée une émotion. Et cette émotion, ensuite, elle sera peut-être transformée en graine qui je l'espère, fera pousser d'autres plantes qui leur permettront peut-être de l'ouverture ou en tout cas des compréhensions, des clés, on va dire, pour peut-être mieux vivre en société, ça serait pas mal.
Moi, je pense aussi à cet égard que quand on va regarder du côté, par exemple, des histoires qui plaisent aux enfants, des dessins animés ou des BD, il y a souvent des animaux qui parlent, des animaux qui ont des émotions, qui ont des pensées. Et donc, les enfants, ils n'ont vraiment aucun problème avec le fait qu'un animal communique. C'est plutôt quand on devient adulte qu'on oublie ça, qu'on commence à considérer les animaux comme des objets, presque. Mais quand on est enfant, on a cette idée que les animaux ont des émotions comme nous, des envies, des besoins. Et c'est quelque chose qui est confirmé par la science, d'ailleurs. Mais dans la vie adulte, on a un peu tendance à oublier ça. Donc nous, on l'intègre volontiers dans nos spectacles parce que il faut qu'on se souvienne tous de la façon dont on pensait aux animaux quand on était petit, qui est la bonne, à mon avis.
J'avais encore une autre question sur vous. Vous pensez que la case jazz que les gens vous donnent vous bloquera si un jour vous décidez de changer de style musical ?
Alors, effectivement, la case jazz est une case qui est des fois un petit peu pénible à porter, en fait. Parce que si on joue du rock, c'est pas vraiment un problème d'être enfermé dans cette cage, j'ai l'impression, le classique non plus. Et le jazz, c'était souvent un peu cette espèce de truc dans lequel c'est pas vraiment du rock, c'est pas vraiment du classique, c'est pas vraiment du hip-hop. Donc c'est du jazz, et surtout parce qu'il y a des musiciens qui savent jouer de leur instrument et qui savent improviser. Et en réalité, dans la case jazz, les esthétiques sont heureusement totalement parfois différentes. Enfin, il y a des choses que je pourrais faire écouter comme du jazz et classées comme du jazz et qui, pour certains, ça sonnerait pas du tout jazz. Enfin voilà. Et Donc cet enfermement, lui, il est un petit peu embêtant. Et en fait, pas tant que ça, à partir du moment où on arrête de se dire qu'on va faire quelque chose pour rentrer justement dans cette case jazz ou s'en sortir. Et à partir du moment où on fait la musique qu'on aime et qu'on a envie de faire, c'est limite aux autres de l'appeler jazz s'ils ont envie. Mais moi, je considère que oui, j'ai un parcours de musicien classique et de musicien de jazz par mes études. Et puis maintenant, je fais ma musique. Et ma musique, elle est de temps en temps peut-être un peu jazz, de temps en temps un peu électro, de temps en temps un peu musique classique. Et puis de temps en temps, bah, je suis bien en peine de pouvoir dire de quel style elle s'apparente. Voilà.
Mais, surtout que je dirais qu'aujourd'hui, la case jazz, c'est une case dans laquelle les possibilités sont infinies, contrairement à d'autres styles de musique. Et donc, quand on est là-dedans, on ne se sent pas trop renfermé. C'est plutôt le regard que beaucoup de gens ont sur ce style de musique qui n'est pas tout à fait correct, on va dire. Mais faire du jazz, ça veut dire que tout est possible au niveau du style, des sons, des choix musicaux à faire. Au moins, aujourd'hui, c'est ça ce que le mot jazz, ça veut dire.
Et juste pour compléter... Et ça peut arriver parfois, par exemple, que les gens voient une annonce d'un de mes concerts, par exemple, et où c'est écrit jazz. Et en fait, quand ils viennent, ils sont parfois même déçus, parce que finalement, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, parce que bah, c'est mon esthétique de musique jazz, mais en fait, les attentes qu'ils en avaient avec des stéréotypes plein la tête, et bah, en fait, ils sont un peu surpris. Alors, au début, ils sont un tout petit peu réticents, puis finalement, après, ils disent bah, oui, bah, finalement, c'est pas si désagréable que ça à écouter. Voilà.
Et donc, on va parler conseils maintenant. Que conseilleriez-vous aux auditeurs qui voudraient se lancer dans ce genre de projet ?
Le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de créer toujours des choses, d'inventer des choses, de ne pas arrêter de jouer comme on le faisait tous quand on était enfant. Moi, personnellement, quand je crée des spectacles, voilà, j'essaie de créer un petit peu avec le même esprit avec lequel je jouais quand j'étais enfant. Évidemment, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai des compétences musicales et autres qui me permettent de mieux structurer les choses, mais le départ de tout, c'est toujours cette envie de jouer, de s'exprimer. Donc moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de le faire, donc de créer avec les moyens que vous avez. On n'est pas obligé d'avoir des grands moyens techniques. De toute façon, la chose la plus importante, c'est de raconter les histoires qu'on a racontées, quelles que soient.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un processus que des fois, on transmet dans des classes, par exemple, dans des collèges ou dans des écoles primaires, avec des enfants, pour leur montrer que ce processus de création, bah, en fait, il est accessible à tout le monde, en fait. Donc, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. C'est que effectivement, comme disait Tommaso, bah, il faut créer, quoi. Et en fait, après, tout ce qui est structuration et tout ce qui est l'aboutissement d'un projet, c'est du travail, mais c'est avant tout de la passion. Et si on a vraiment envie d'aborder des thématiques et puis d'avoir des choses à dire, je pense que faut pas hésiter.
Merci beaucoup à Tommaso Montagnani et Jean-Baptiste Berger de la compagnie Tacoma, qui vous présente donc Mutua et l'Arbre Enchanté avec tout un tas de dates différentes. On vous attend le 21 juillet, par exemple, au Jardin Henri de Neu. Le 20 juillet aussi d'ailleurs, le 27 juillet, le 24, 25 et 31 août, dans 4 lieux différents. Il y a donc le jardin Henri Deneu dont je parlais tout à l'heure, la Pardois, l'Arboretum du Val de Vel ainsi que le parc Saint-Rémy, dans le cadre bien sûr d'un été à Reims. Merci à tous les deux, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.